l'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Omar Youssef Souleyman, journaliste franco-syrien, auteur de nombreux ouvrages, dont Les complices du mal aux éditions Plomb. Dans ce livre, il raconte sa propre expérience, son exil, son arrivée en France et son combat sans appel à la montée de l'islamisme en France, qui s'ancre dans les groupes politiques de gauche, dont la France insoumise. Omar Youssef Souleyman était à Strasbourg, sur invitation du CRIF Alsace, en conférence dans les locaux de la collectivité européenne d'Alsace, devant plus de 200 personnes. Pour commencer, explication du titre de son livre « Les complices du mal ».
En fait, les complices, parce que dans une entête, on pose des questions. C'est-à-dire, je ne veux pas culpabiliser quelqu'un. Ce n'est pas moi qui décide qu'ils sont des coupables ou pas. Mais je vois, j'ai des éléments, j'ai des centaines de preuves dans ce livre qui sont complices en trop. C'est-à-dire, là, je parle de la France insoumise et les islamistes, bien sûr. D'ailleurs, le mot complicité en français, je l'adore. Ouais. Ça pourrait être une complicité d'amour, une complicité d'amitié. Mais là, ils sont des complices du mal, quand même. C'est très grave. Et puis, le titre était bien. Mon éditeur m'a dit, c'est magnifique. Donc, il a dit, ben, on y va, c'est tout.
L'auteur revient sur sa venue précédente à Strasbourg.
Figurez-vous que la première fois que je suis venu à Strasbourg, c'était 10 jours après les attentats de 13 novembre 2015. Et c'était pour faire une lecture de poésie dans la cathédrale. Et c'était à deux pas d'être annulé par peur des terroristes qui ont commis cet attentat, parce que pendant 10 jours après, beaucoup d'activités culturelles ont été annulées. Or, on a assisté de le faire et on l'a fait. Parce qu'une fois qu'on annule une activité culturelle en France, ça veut dire que les islamistes et les intégristes gagnent.
Au cœur de la conférence, son regard sur le Moyen-Orient et l'antisémitisme.
Je pense que le plus grave pour un être humain au Moyen-Orient, c'est d'être juif ou être homosexuel ou être femme. Par rapport à l'antisémitisme, ce n'est pas vraiment un sujet politique, mais avant tout, c'est un sujet historique et religieux. Et il est normalisé et banalisé au point qu'on ne se rend pas compte qu'on est antisémite. C'est-à-dire, le mot juif, on était au courant que c'était déjà une insulte. Quand on parle de l'antisémitisme au Moyen-Orient, personnellement, je parle d'une ambiance qui domine l'espace. Le mois de janvier 2025, après 13 ans de mon exil ici en France, suite à la chute du régime de Bachar al-Assad, j'étais étonné de croiser des jeunes laïcs, des jeunes qui ne traitent pas les êtres humains selon de leur communauté religieuse, des jeunes qui parlent déjà de normaliser les relations avec Israël et de plier cette page de haine, de conflit entre Israéliens et Arabes au Moyen-Orient. Ces jeunes sont toujours une minorité.
Et son choix de venir en France.
Et la France, à l'époque, je ne savais rien de la France, à la part qu'elle était le pays de la poésie, de la littérature, le pays de droits de l'homme, le pays de la liberté d'expression, le pays qui protège le plus les réfugiés journalistes. Oui. Donc j'ai tenté de ma chance de venir en France dans le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté. Et donc je vais à l'ambassade française, je demande l'asile politique. Le lendemain, j'étais à Paris. J'attendais effectivement de voir dès mon arrivée Paul-Éluard, de voir la réputation de la France au Moyen-Orient, genre le théâtre, l'art, la douceur française, le parfum français, la mode. Eh bien, la première scène dans laquelle je suis tombé à Paris, c'était RERB, le train qui klaxonne très très fort dès le matin, les gens qui courent dans tous les sens pour... Ils ne savaient pas en fait pourquoi ils couraient, j'avais l'impression qu'il y avait un problème. Après, j'ai appris que ça fait partie de la mode de vie parisienne. Et tout ceci, en fait, m'a fait sortir de cette ambiance intégriste. Et je dis toujours une chose, que j'étais déjà français avant d'arriver en France. Parce qu'être français, pour moi, ce n'est pas une question d'appartenance à une géographie, à un territoire visible. C'est l'appartenance aux valeurs. C'est-à-dire, grâce aux lectures, grâce à la poésie, et grâce à Descartes, par exemple, que j'avais lu, qui m'a sauvé aussi de l'intégrisme et de l'islam politique, tout ceci... m'a motivé de venir en France, d'appartenir à cette laïcité qui est tellement rare et qu'on est chanceux en France de la voir. Et malheureusement, beaucoup de Françaises et Français ne se rendent pas compte.
Les liaisons dangereuses entre les manifestants pour Gaza et l'islam politique. Il nous parle de son infiltration dans ces manifestations et sa tête de proue, Rima Hassan.
Pourquoi prendre ce risque d'aller dans ces manifestations tous les samedis, place de la République ou place de Nation, pour filmer avec des caméras cachées, pour discuter avec des islamistes, pour discuter avec les députés ou les militants de la France insoumise. En fait, dès mon arrivée en France, j'ai habité pendant 7 ans dans la région parisienne, dans la banlieue parisienne, et j'étais toujours choqué de la présence de l'islam politique. Et donc, j'étais tellement choqué par cette ambiance tellement présente, en fait, par des imams qui adoptent un discours de haine envers la France. Et ils m'ont parlé à l'époque, surtout en arabe, parce que je ne maîtrisais pas le français, en m'alertant de la sauvagerie française, de l'État français, comme quoi qu'ils allaient aussi nous rejeter dans la scène, comme ce qui s'était passé dans les années 60. Donc ce discours séparatiste m'a mis l'alerte. Oui. D'autres choses, les signes religieux, religieux dans l'islamiste, quand je voyais par exemple une gamine de 9 ans ou de 10 ans voilée dans la banlieue parisienne, c'était terrible. Ça n'est pas... Mais même en Syrie, on ne voyait quasiment pas ça quand même. Le 7 octobre, c'était le moment de déclenchement, pas seulement du fait que le Hamas a commis le massacre, le plus grave depuis la Deuxième Guerre, depuis la Shoah contre les Juifs, mais aussi cette honte, cette déclaration honteuse de la part de Jean-Luc Mélenchon, qui a traité ce massacre comme une violence contre la violence. Le lendemain, la France insoumise a publié un communiqué de presse pour prouver cette parole, ils ont répété la même chose que la France insoumise. Et j'avais déjà écouté Rima Hassan quelques jours avant de 7 octobre, qu'elle a déclaré sur France 5. Elle a dit, au nom de quoi je ne pouvais pas rentrer dans le village de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, mais que de mensonges. Mais elle pouvait rentrer avec son passeport français. C'est très simple. C'est ridicule. D'ailleurs, elle est née en Syrie, moi je connais bien le quartier de sa naissance, la ville de sa naissance, et se présente en tant que réfugiée palestinienne. Ça, c'est aussi de la manipulation, parce que si tous ceux qui ont pris leur pays depuis des générations doivent être traités en tant que réfugiés, on finira jamais. Et malheureusement, ça marche envers les jeunes. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis dit que je devais y aller. Donc, j'allais tous les samedis, je filmais, tout simplement, je documentais pendant à peu près un an et demi. Et c'était un travail, un long travail, un long chemin. Et au départ, je n'avais vraiment pas l'idée d'écrire un livre. Avec le temps, je découvre de plus en plus que la France insoumise est un parti antisémite, un parti extrêmement violent, un parti qui ne souhaite que de haine, qui envisage de mettre le conflit en France entre les deux communautés musulmanes et juives. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de témoigner, parce que ce livre, ce n'est pas une simple enquête, mais aussi un témoignage. Je l'écris à la première personne, avec « je », ça m'intéresse beaucoup. Et le plus important pour moi, c'est de poser des questions. Parce que pour moi, une enquête, ce sont des questions. Et j'ai toutes les preuves sur chaque phrase.
Et de faire un parallèle entre la haine du juif exprimée pendant les manifestations et la volonté d'éliminer Israël en Syrie.
En fait, dans ces manifestations, soit place de la République ou ailleurs, j'avais l'impression de ne pas être en France en 2024 ou 2025. Ça me renvoyait toujours comme si cette expression française de déjà vu, quand on était obligé pendant la guerre de 2006 entre Israël et Hezbollah, j'étais aux premières années de l'université, on était obligé de sortir dans des grands rassemblements pour encourager Hassan Nasrallah à l'époque d'aller encore plus loin et rayer l'État hébreu de la carte, l'effacer de la carte, encourager Hezbollah pour massacrer tous les juifs de la région. Ça, c'est, on le disait très clairement, vous voyez, en Syrie. Vous voyez, il y a, en 2022, il y avait un militant qui s'appelait Salah Amouri, qui fait partie de FPLP, une organisation considérée terroriste à l'ONU européenne. Salah Amouri a essayé de tuer le grand rabbin d'Israël. C'est pour ça qu'il était en prison, hors des franco-israéliens. Donc, il a été expulsé de l'État hébreu. Il arrive en France. Ceux qui l'accueillent, ce sont des députés de la France insoumise à l'aéroport de Charles de Gaulle. Et donc, et y compris Mathilde Panon. Mathilde Panon invite plus tard Salah Amouri à l'Assemblée nationale pour témoigner. Et Salah Amouri, je le voyais quasiment tous les samedis dans les manifestations de la France insoumise. Soit organisé directement par LFI, soit organisé par Urgence Palestine, qui est une association fondée le lendemain du massacre de Hamas, le 8 octobre, pour aider les Palestiniens. Et là, il y a un sujet très important, c'est le renversement de rôle. Adopter un discours victimaire qui a déjà été fondé de la part des frères musulmans dans les années 20 pour gagner l'empathie de la société. Ce que malheureusement, Urgence Palestine et les islamistes et les filles l'adoptent. Oui. C'est pour ça que je nomme le premier chapitre de mon livre Un discours victimaire.
Et pourquoi la France, terreau des frères musulmans?
Pour plusieurs raisons. D'abord, la France, c'est vraiment le territoire sur lequel ils peuvent aborder le discours victimaire, puisque la France a colonialisé plusieurs pays au Moyen-Orient, ici. Et c'est pour ça, en fait, Rima Hassan, elle associe souvent la cause palestinienne avec la cause algérienne. Depuis la loi contre le séparatisme, qui était dansée par Emmanuel Macron en 2018, était appliquée en 2021, regardez combien d'associations islamistes qui étaient dissoutes, hein, énormes en France, et combien de mosquées radicales. Donc, ils étaient tellement coincés. Et la France, c'est le cible principale des frères musulmans pour cette question précédente. C'est-à-dire qu'il y a ce terre fertile de culpabiliser les jeunes français. Et il y a une autre raison aussi, c'est que tout simplement, la communauté musulmane en France, c'est la plus grande d'Europe. Vous voyez, on a plus que 5 millions de musulmans. Et la communauté juive, c'est le plus grand de l'Europe aussi. Et donc, mettre le conflit en France entre les deux communautés, c'est vraiment l'objectif principal des frères musulmans et du Qatar, surtout. Et puisque ça, c'est plus possible de manipuler les Français, donc comment on fait? On va trouver un cheval de Troie qui s'appelle la France insoumise pour au moins arriver à l'Assemblée nationale. C'est vraiment très grave ce qui se passe. Même leur déclaration, les déclarations de Thomas Porte, de Rima Hassan, de Mathilde Panon à Al Jazeera Arabe sont vraiment graves.
Et concernant la montée de l'antisémitisme?
En fait, justement, les jeunes, malheureusement, depuis le 7 octobre, voilà, je montre la carte de Moyen-Orient et je leur explique que je viens de la Syrie. Et je cite le pays et je montre qu'il y a un pays qui s'appelle Israël. Ils me disent, une bonne partie d'eux, que non, ça n'existe pas. Mais comment ça n'existe pas? Mais regardez, il est là, ce pays. Ce discours n'existait pas auparavant. Aujourd'hui, quand je pose la question, si vous êtes assez jeune, bon, on sait que ça, c'est secret, il ne faut pas le dire, mais bon, ce sont des jeunes, juste pour savoir leur idée. Si vous aviez le droit de voter, parce qu'ils sont encore des mineurs, voterait qui? Mélenchon. Pour quelle raison? Parce que c'est le seul qui nous protège des Français. Mais regardez la réponse. C'est le seul qui nous protège des Français ou c'est le seul qui nous protège des Blancs? Ces jeunes aujourd'hui, cette intensité, cette identité, c'est-à-dire à quel point ils appartiennent à l'islam, ils traitent l'islam comme une identité. Quand je leur pose cette question, par exemple, moi j'ai fui la Syrie, vers la France, je me suis échappé d'un régime dictatorial, etc. Est-ce que s'il y a un problème aujourd'hui en France, vous partez où? Ils me disent tous, on va dans notre pays. Mais la France, c'est pas votre pays, non, nous on est musulmans, on n'est pas français. Mais ça va pas du tout en fait. C'est-à-dire, si on est musulman, on n'a pas le droit d'être français ou l'inverse.
La laïcité, au cœur du discours et du travail du journaliste, jour après jour.
En incarnant la laïcité, c'est tout simplement, vous voyez, avec plusieurs méthodes, de les encourager à en parler, de leur dire tout simplement ce que je leur dis toujours, vous êtes chez vous, vous n'êtes pas de l'étranger, vous êtes chez vous, vous êtes française et français. Et c'est dans ce cadre-là, parce qu'en fait, la méthode, ou c'est d'écrire, l'objectif, c'est d'écrire, de faire un atelier d'écriture. Je leur demande toujours d'écrire une lettre pour accueillir un nouveau Français arrivant ici. Imaginons qu'un nouveau Français, vous pouvez l'appeler tout ce que vous voulez, ça pourrait être moi. Écrivez-moi une lettre pour montrer votre France, pour me dire qu'est-ce que c'est la France. On va faire un projet ensemble dans cette lettre. Parce que offrir un rôle dans la société chez ces jeunes qui sont pris en otage entre ce qu'ils entendent à la maison et ce qu'ils entendent à la mosquée, ou dans la rue, ou même dans le milieu sportif, qui est très dangereux, vous voyez, aujourd'hui, par rapport à la récupération de la part des islamistes. Nous aussi, qu'on doit être là, ce que je disais tout à l'heure. Par rapport aux autres, je dirais ce que vous avez évoqué sur les députés qui adoptent un discours séparatiste, c'est révéler les choses, tout simplement. Aujourd'hui, on a des médias, on a des réseaux sociaux. Et je pense qu'il faut toujours affronter avec les idées. C'est-à-dire, faire ce qu'on appelle la guerre des idées, une guerre imaginaire. Mais encore une fois, quand on est face aux gens qui ne croient pas à ce débat, c'est-à-dire, moi, je n'ai aucun problème avec quelqu'un, je ne sais pas, avec mes adversaires politiques, mes adversaires, c'est normal, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la démocratie. Mais quand ceux qui sont face à nous, qui ne pratiquent pas les mêmes méthodes, par exemple, là, Thomas Porte, il y a juste quelques semaines, m'a accusé d'être, pour une accusation, pantant, c'est les pantants de service, pour ne pas dire l'arabe de service. Mais un député de la France insoumise dit ça. Mais quelle honte! Un autre député de la France insoumise a publié une photo de mon livre dans le cheminée, parce qu'il voulait, en appelant publiquement sur les associations, de le brûler, oui, qui nous renvoie à l'autodafé de l'année 33 en Allemagne. Donc on est malheureusement face aux gens qui ne pratiquent pas la même méthode que nous. C'est pour ça. On travaille, on continue à travailler comme on fait en révélant des choses. Et voilà, c'est tout.
C'était un extrait de la conférence d'Omar Youssef Souleymane, journaliste franco-syrien. Son livre « Les complices du mal », c'est aux éditions Plon.
L'invité de la rédaction, Valérie Viard.